France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Soyez les bienvenus sur France Musique en ce samedi 12 juin. Félix Levaché est à la réalisation, Emmanuel Mordenkamp et YouTube Diego Aclopès à la technique. Bienvenue dans cette émission. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors avec nous ce matin à 7h45, c'est le chef Emmanuel Bardon qui partagera un choix musical avec nous. À 8h dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera d'un sujet d'actualité brûlant, la reprise de la pratique chorale post-crise. À 8h15, notre reportage, Sophie Anastasio nous emmènera prendre l'air au festival Le Murmure du Monde, un festival éco-poétique qui se tient dans les Hautes-Pyrénées. À 8h30, notre invitée sera Elena De Winter, secrétaire générale du REMA, du Comité français du réseau européen de musique ancienne. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous fera découvrir une chanteuse, rappeuse, musicienne américaine, Michelle Ndegeocello. Il le prononcera bien mieux que moi. Bon réveil à notre écoute.
Thank you.
Le violoniste franco-serbe Nemanja Radulović, ici accompagné par son ensemble Double Sens et puis Laure Favrekan au piano notamment. Le violoniste fervent admirateur de Paganini, d'Isaac Stern, de ses pièces feu d'artifice aussi. On écoutait ici cette Xardas de Vittorio Monti dans un arrangement d'Ivan Kassar. Voilà, je ne retrouvais plus le prénom, autant pour moi. On va continuer avec une autre œuvre de Mozart, Wolfgang Amadeus, de son prénom. Tonalité radieuse, texture légère, simplicité. Voici l'Allegro grazioso de la sonate en si bémol majeur, Köchel 333, avec Stephen Huff au piano.
Thank you.
Ce charmant Allegro Grazioso, extrait de la sonate en si bémol majeur, que chez le 333 de Mozart, c'était Stephen Huff qui était au piano. Al-Basma, cela veut dire empreinte en arabe, et c'est le titre du nouvel album de l'ensemble Canticum Novum, dirigé par Emmanuel Bardon, ensemble de musique ancienne et de musique du monde de Saint-Étienne. C'est un disque qui paraît chez Embrunet Éditions en partenariat avec France Musique, et qui nous propose un voyage au cœur de la péninsule ibérique médiévale. En voici, ce matin, un extrait. Fazer Omaria, extrait de ce nouvel album de l'ensemble Canticum Novum, dirigé par Emmanuel Bardon. Emmanuel Bardon qui est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Musique, vous êtes donc directeur musical de cet ensemble. On écoutait à l'instant un extrait de votre nouvel album, Al-Basma, empreinte. C'est la traduction de ce mot en arabe. C'est une musique d'une très très grande beauté.
C'est gentil. Oui, effectivement, c'est une musique, en tout cas tout l'album, je trouve est une musique extrêmement vivante et avec, je trouve, une nécessité de continuer à la partager de manière très précise aujourd'hui dans un monde contemporain qui souvent oublie que l'interculturalité et la mixité est une nécessité pour nous tous dans notre quotidien, pas uniquement sur scène et en musique.
C'est vrai que c'est une musique qui est partagée, ou peut-être de manière plus générale, la musique interprétée par votre ensemble depuis parfois, évidemment, très 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 longtemps, des musiques qui sont toujours vivantes, vous le disiez, et qui témoignent aussi. On a souvent ces thématiques qui reviennent de tolérance, de respect, de diversité. C'est comme ça que vous explorez le répertoire à la recherche de ces œuvres-là, de ce message-là, Emmanuel Bardon?
Depuis effectivement une quinzaine d'années avec l'ensemble, on est autour de ces thématiques. Mais c'est vraiment essayer au travers des répertoires que l'on partage de parler de tous ces endroits où les musiciens et nous musiciens ne sommes pas sur scène. Notre vie dans le quotidien et cette nécessité aussi de défendre un dialogue entre les cultures, entre que les musiciens soient aussi acteur dans son quotidien, qu'il soit pas déconnecté d'une réalité de vie, et on essaye au travers des différents projets de l'ensemble d'être dans cet endroit d'humanité, et pas uniquement dans une transmission de répertoire de patrimoine, mais que la mémoire soit aussi ce répertoire de mémoire permette aussi de raconter ce que l'on vit. Moi, j'ai la chance de vivre dans une ville extrêmement cosmopolite qui est la ville de Saint-Étienne, qui donc a une tradition ouvrière très très forte. Et c'est ce quotidien qu'on a envie de raconter, avant d'ensuite de le parler. Évidemment, le partage sur scène, mais c'est d'abord ces 300 jours ou ces 250 jours qu'on passe en dehors de la scène.
En dehors de la scène, effectivement. Emmanuel Bardon, alors que veut dire, pourquoi avoir choisi ce titre, Al-Basma, l'empreinte en arabe?
C'est l'empreinte qu'on laisse sur notre passage, c'est l'empreinte qu'on laisse en autre, dans l'autre, quand on le rencontre, c'est cette capacité qu'on a à se transmettre nos mémoires respectives, à les partager. L'ensemble, en tout cas dans son projet musical, depuis de nombreuses années, fait en sorte que un collectif interculturel soit créé, que chacun qui porte une mémoire la partage à l'autre, peu importe d'ailleurs qu'il soit de la même culture ou d'une autre culture, et ensemble on essaye d'en être une résonance. Et donc on laisse une empreinte, effectivement, dans le chemin ou dans la vie de l'autre. Puis on se rend compte aussi que les passages interculturels comme ça marquent des territoires, pas uniquement au niveau musical, mais à plein d'autres niveaux, au niveau architectural, au niveau de la littérature, au niveau même de la nature. On a une empreinte de tous ces passages, et c'était à cet endroit qu'on voulait être. C'est un droit de croisement.
Faire de la musique un outil de transmission, de partage aussi, de dialogue, de découverte, je pense que c'est ce qui guide aussi la programmation de votre festival Festin Musical qui se tiendra les 26 et 27 juin prochains à Sainte-Croix en Jarès, festival dédié à la musique ancienne et aux musiques du monde. Quelle sera la thématique cette année, Emmanuel Bardon?
Alors on a quatre concerts qui, bon, chaque année, ça fait un peu plus de 10 ans là maintenant qu'on organise ce week-end, et on est autour de la mer Noire cette année, donc il va y avoir des projets autour de l'Anatolie, autour de la Grèce, autour de l'Arménie, quoi, mer Noire et Bosphore, voilà. Et donc l'idée, c'est toujours de transmettre évidemment plein de répertoires et des cultures différentes. Et puis on est un petit peu autour de la thématique du passage. On a vécu une année un peu étrange, et donc on est passé de plein d'émotions différentes à d'autres émotions. Et puis l'idée, c'était aussi dans une région où c'est un endroit de passage, un endroit entonnoir, un endroit de passage où beaucoup beaucoup de personnes en déplacement dans l'histoire humaine ont été amenées à passer par cet endroit-là. Et donc c'était aussi de ne pas oublier toutes ces transhumances humaines qui du coup aussi
laissent une empreinte quelque part, on peut le dire.
Oui, laisse une empreinte,
Emmanuel Bardon.
Je cherche mes mots ce matin, mais en tout cas on s'est beaucoup occupé de nous là sur cette période de confinement. On a beaucoup on s'est beaucoup questionné sur nos vies, etc. Et je pense qu'on a peut-être mis de côté d'autres transhumances et d'autres souffrances, et qu'il est nécessaire de continuer à en parler. Et la musique, le transmet d'une manière ou d'une autre.
Allez au festival Festin Musical, chers auditeurs, vous trouverez eh bien le lien sur la page Musique Matin, sur le site francemusique.fr avec toutes les informations sur le festival. On va écouter votre choix musical qui est absolument sublime. On l'a déjà lancé, vous l'entendez sous ma voix, mais j'aimerais que rapidement Emmanuel Bardon, comme ça on peut l'entendre, vous nous en disiez quelques mots.
Bah, ça fait partie de ces très grands musiciens, Michel Godard, que je trouvais exceptionnel, et qui travaille justement à la rencontre, qui travaille à l'échange avec, en particulier sur cet extrait, un des plus grands chanteurs azéris qui s'appelle Alim Kazimov. Et ça a été une découverte pendant le premier confinement. Je connaissais pas très bien Alim Kazimov et j'ai découvert ça en mars de l'année dernière. Ça a été une émotion tellement forte que j'avais envie de le partager.
Eh bien, je vous remercie parce que moi aussi, vous m'avez fait découvrir et ça a été une grande émotion aussi de l'écouter. Donc, je m'arrête de parler et nous l'écoutons. Merci Emmanuel Bardon.
Merci.
Quelques notes de Trace of Grace de Michel Godard avec qui cette voix absolument troublante. Alim Kazimov, c'était le choix musical de notre invité ce matin, Emmanuel Bardon. Le 18 juin prochain, Musique en Fête soufflera ses 10 bougies en direct sur France 3, France TV. Et ainsi que sur France Musique, évidemment. Cette édition anniversaire présentée par Cyril Ferraud et notre très chère Judith Chen sera particulièrement événementielle. Au programme, les ingrédients qui ont fait son succès, un grand spectacle populaire mêlant musique classique et lyrique, standard de la chanson, comédie musicale, musique de film, danse classique et moderne. À l'affiche, la très grande Sonia Yoncheva, mais aussi Béatrice Oria-Monzon, Nemanja Radulovic, qu'on écoutait un petit peu plus tôt dans cette émission, Javier Camarena, Lucienne Renaudin-Vary, Ildar Abrazakov, etc., etc. Vous voyez, la liste a de quoi faire rêver. Ils seront accompagnés sur la scène du Théâtre Antique d'Orange par l'orchestre de Cannes PACA sous la direction de Luciano Acocella et Didier Benetti. Pour fêter cela, je vous offre le dernier disque de la soprano Sonia Yoncheva. Je pense que vous allez être nombreux à essayer de participer. Rebirth, c'est son titre, disque paru chez Sony, enregistré avec la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia à l'Arcon. Pour tenter votre chance, francemusique.fr, la page de Musique Matin, cliquez sur Contactez-nous et donnez-nous la réponse à la question suivante. Où se déroulera la grande soirée Musique en Fête ? Au Théâtre Antique d'Orange ? Au sommet de l'Atomium à Bruxelles ? Ou alors à bord de l'ISS avec Thomas Pesquet ? Votre réponse sur francemusique.fr, bonne chance à vous. Thank you. Qu'est-ce que j'adore cette compositrice, Barbara Strozzi, ici avec l'Eraclito Amoros, chantée par Sonia Yoncheva, accompagnée par la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia Alarcón, la soprano Sonia Yoncheva qui a été l'invitée de Lionel Esparza, c'était dans l'émission Relax le 12 avril dernier, c'est à aller réécouter sur francemusique.fr.
Sur francemusique.fr, découvrez Les Instrus avec un Z, un nouveau podcast pour petits et grands.
Florence Foresti.
Romain Leleu.
C'est moi, la trompette.
Des enfants débarquent par hasard sur la scène de l'auditorium de Radio France. C'est alors que les instruments de musique se mettent à leur parler.
Je m'appelle Tara, et mon nom de famille, bah, c'est Tata. Tata. Oh, t'as compris? Tara, Tata.
Les Instrus, déjà 5 instruments de musique, un podcast original de Saskia Deville sur francemusique.fr.
Du 10 au 30 juillet, chaque concert est une fête au Festival Radio France Occitanie Montpellier. La fête de la musique française le 20 juillet à l'Opéra Berlioz de Montpellier, César Franck et Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand Chamaillou, l'Orchestre National de France dirigé par Christian Macellaro. En direct sur France Musique. Infos et réservations sur lefestival.eu.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
Je vous souhaite un splendide début de journée à l'écoute de France Musique. Il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique de Marc-Olivier Dupin, battement de cœur. Bonjour mon cher Marc-Olivier.
Bonjour cher Saskia.
Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet brûlant de l'actualité chorale. Les chœurs amateurs sont frustrés, déçus et en colère après la parution d'un récent décret limitant leurs pratiques. Dites-nous tout.
Ben oui, ils ont le sentiment d'être moins bien traités que beaucoup d'autres dans cette phase de déconfinement. Ils se sentent bridés dans leur capacité à retrouver une pratique chorale. Et méfiez-vous d'un chœur en colère, voilà ce que ça peut donner.
Il n'a pas l'air commode, effectivement. Concrètement, Marc-Olivier, quelles sont les contraintes actuelles qui les limitent dans leur pratique ?
Alors officiellement, toute pratique chorale collective est proscrite, mais la situation n'est pas sans contradiction. Dans certains endroits, les préfets et les maires font preuve de tolérance. De plus, la possibilité de manifestation publique est paradoxalement maintenue, ce qui voudrait dire que l'on peut faire des concerts de chant choral, mais sans répéter. Par ailleurs, il semble que certaines formations chorales aient pu continuer, comme certaines grandes formations amateurs parisiennes, ou d'autres qui ont pris le maquis. Bref, c'est à n'y rien comprendre.
Et pourquoi êtes-vous aussi affecté par cette situation, Marc-Olivier ?
Pour plusieurs raisons, Saskia. D'abord, je suis un éternel et obstiné militant de la pratique chorale pour les enfants comme pour les adultes. Et en particulier, d'ailleurs, avec une réelle admiration pour les choristes amateurs, adultes. Par ailleurs, je ne voudrais pas que cette pratique musicale collective des amateurs, chanteurs ou instrumentistes, soit la grande oubliée de notre retour à une vie artistique et culturelle. Et au fil des ans, le chant choral s'est extraordinairement développé en France. D'après un rapport Singing Europe de 2015, il existe en France 65 000 chœurs regroupant 2 600 000 choristes. Probablement davantage aujourd'hui. Alors il faut préserver cet acquis. J'imagine bien les myriades de problèmes à gérer face à une telle pandémie, notamment dans la mise en œuvre des paliers de déconfinement. Je voudrais cependant que tous ces musiciens amateurs, amoureux de leur art, ne se désespèrent pas et retrouvent au plus vite le chemin d'une pratique d'ensemble, évidemment attentif aux conditions sanitaires. Espérons retrouver bien vite la sérénité.
Et je partage tout à fait votre avis, Marc-Olivier.
Espérons. Merci, Saskia.
Merci beaucoup pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec joie, Saskia.
La Capella Real de Catalunya, Jordi Savall ici pour cette pavane belle qui tire ma vie, signée Toineau Arbeau. Il est 8h07 et vous écoutez France Musique. Thank you. Le troisième mouvement de ce trio pour clarinette, violoncelle et piano en si bémol majeur opus 11 de Beethoven, nous écoutions Anne Gastinel, Nicolas Singelich et Andreas Ottenshammer. Il est 8h14 sur France Musique. Et focus ce matin sur le festival Le Murmure du Monde, un festival éco-poétique qui se tient jusqu'à demain dans les Hautes-Pyrénées, au programme des tables rondes, une pièce de théâtre en forêt, des concerts ou encore un dialogue zoopoétique avec les vaches. Une performance à laquelle s'est intéressée notre journaliste Sophia Anastasio.
Lorsque l'on regarde le programme du festival Le Murmure du Monde, l'intitulé d'une performance attire immédiatement l'œil. Dialogue zoopoétique avec les vaches, c'est son nom de Geneviève de Bugère. Autrice belge résidente à Prague, elle est inscrite au Master d'éco-poétique et création à l'Université d'Aix-Marseille. Un courant littéraire qui interroge le vivant, nous explique-t-elle.
Mais l'éco-poétique, donc c'est à l'origine un courant de critique littéraire qui s'intéresse aux représentations de la nature, du monde vivant non humain dans les textes littéraires. Donc il revisite des textes de Giono, de George Sand par exemple, avec ce nouveau prisme. C'est une attention sensible au monde qui nous entoure. Et puis c'est aussi une manière d'aborder la littérature en relation avec d'autres sciences humaines comme l'anthropologie, la philosophie. Voilà.
L'artiste a été invité à participer au festival Le Murmure du Monde, dont c'est la première édition. Un événement créé par l'association Le Murmure du Monde, dont la programmatrice est Mathilde Walton. On l'écoute.
Mon idée, c'était de faire venir dans ce lieu singulier des artistes, des penseurs, des écrivains, pour interroger notre rapport au monde. Et ce sont tous essentiellement donc des écrivains, une douzaine d'écrivains qui sont là sur le territoire, dans ces paysages, parce qu'ils ont écrit des romans ou des livres, hein, parfois des essais, qui sont inscrits dans une stricte contemporanéité, c'est-à-dire qu'ils interrogent notamment ce moment que nous vivons de bascule écologique.
Ce lieu singulier, c'est le Val d'Azun, une vallée des Hautes-Pyrénées, un cadre que nous décrit Geneviève de Bugère, visiblement sous le charme.
C'est magnifique, c'est très très vert, il y a une grande variété, une grande diversité de végétation et d'arbres. Les vaches sont omniprésentes, sont des vaches limousines qui apparaissent. Et puis ce qui est très impressionnant aussi, ce sont les vautours et les différents rapaces qui survolent la vallée de manière très paisible. C'est un lieu qui est très peu habité, donc c'est encore assez fort préservé et qui est vraiment magnifique.
Et justement, l'artiste a donc présenté ce dialogue zoopoétique avec des vaches. Elle a souhaité ainsi dire la relation de l'être humain à cet animal en passant par l'imagination. Elle revient sur son processus d'écriture.
Je suis plutôt passée par la voix intime et c'est exactement ce que nous enseigne dans le cadre du master Jean-Christophe Cavallin. C'est de passer par ses propres souvenirs, par la relation interpersonnelle qu'on crée avec un animal. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un village en Belgique où les vaches étaient très présentes. Et donc, j'allais les rencontrer, je créais des relations avec elles, mais ça se passe dans une relation intime. Et c'est l'idée du dialogue zoopoétique, c'était de l'exprimer aux personnes pour qu'ils se retrouvent aussi dans le texte, en fait.
L'été dernier, Naya, une dame du troupeau, a donné naissance à son veau en haut du col des Bordères. Il faisait très chaud.
Dans son texte, Geneviève de Bugère s'adresse à une vache qui s'appelle Naya et la performance fut pleine d'imprévus. Sans le
nouveau-né. Ce qui était très particulier, ce qui s'est passé pendant la lecture performance, c'est que les vaches donc, ont été rassemblées par l'éleveur, sont arrivées par le haut du col où elles étaient montées, parce qu'elles sont en semi-liberté en fait dans les estives. Et au moment où le public est arrivé, les vaches sont descendues, donc elles ont formé une forme d'honneur au public. Et donc je pense que la performance a commencé à ce moment-là, alors qu'on s'était dit qu'elle allait commencer au moment de la lecture, mais l'imprévu lié au troupeau de vaches participe directement à l'expérience.
Chère Naya, permets-moi de m'adresser à toi. Il m'arrive aussi d'être étourdie.
L'artiste déclare s'être sentie extrêmement bien pendant la performance. J'avais l'impression d'être dans le vrai, dit-elle, même si les vaches se sont enfuies dès le début de la lecture, autre imprévu. Et le public, lui aussi, a été ému, comme Mathilde Walton.
Ton museau est un galet glissant et humide.
Moi, ce qui m'a frappée dans son texte, que j'ai trouvé extrêmement émouvant, c'est le rapport à la maternité, puisqu'elle évoque la question du vélage, des petits veaux qu'elles mettent au monde tous les ans. Elles mettent un petit veau au monde, qu'on leur arrache le plus souvent, et qu'elles
quelle difficulté ça peut être pour, si on se met à leur place, ce que c'est que leur arracher leur petit veau. Et ça, cette évocation a été extrêmement troublante pour le public.
L'événement est gratuit, ouvert à toutes et à tous. Et de son côté, Geneviève de Bugère espère pouvoir réitérer ce genre de performance. Avis aux programmateurs.
Et vive l'éco-poétique, cher programmateur qui nous écoutait. Merci beaucoup, Sophie Anastasio, de nous avoir emmenés eh bien, sur ce festival. Et puis à la semaine prochaine, évidemment.
Thank you.
un violon, un luth et de la musique du XVIIe siècle. Ici, Nicolas Matéis, compositeur présent sur ce disque de Mad Lover, dernier disque du duo formé par Théo Tim, Langlois de Swart, et Thomas Dunford, un disque absolument splendide paru le 20 novembre dernier chez Harmonia Mundi, en partenariat avec France Musique. Et c'est une autre nouveauté parue à l'automne dernier qui nous attend, juste avant d'accueillir notre invité, El Nour, La Lumière, premier album de la soprano égyptienne Fatma Saïd, paru chez Warner Classics, une chanteuse au timbre rond, lumineux, que nous écoutons dans cet air Aïtani Al-Naya Ouagani, ce qui veut dire « Donne-moi la flûte et chante », un air de Najib Ankash sur un poème de Khalil Gibran.
Thank you.
Atani Alnaya Wagani de Najib Ankash, chantée ici par la merveilleuse Fatma Saïd, pour vous accompagner ce matin sur France Musique. Il est 8h30.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Depuis la rentrée, nous nous mettons à l'écoute de ces artistes, de ces réseaux professionnels, de ces personnalités politiques, de ces institutions aussi qui ont choisi d'engager une réflexion sur la transition écologique. Quel est son impact sur l'activité des artistes? Comment repenser la mobilité internationale aujourd'hui pour prendre en compte cet enjeu? J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Elena De Winter. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Vous êtes secrétaire générale du REMA, du Comité français du réseau européen de musique ancienne. Mais qui cela regroupe-t-il? Première question, Elena De Winter.
Alors, le REMA. Donc moi, je suis secrétaire générale du réseau européen de musique ancienne,
tout à fait,
qui a certes un comité français, mais qui est actif au niveau européen. Donc le REMA, c'est un réseau qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans, en 2000 pour être précise, à Ambronay, qui regroupait au début une vingtaine de programmateurs avec l'idée d'échanger, de pouvoir créer des projets ensemble, des coproductions, des tournées. Et c'est un réseau qui petit à petit s'est étendu pour arriver à une centaine de membres à la fin de l'année dernière. Et ces membres étaient donc tous des lieux de diffusion, donc soit des festivals, des salles de concert, enfin en grande partie. En ce moment, on est dans un moment un peu particulier pour le réseau, puisque les membres du réseau ont décidé l'année dernière d'ouvrir ce réseau à tout type de structure professionnelle dans le secteur de la musique ancienne. Et donc, ça inclut notamment des ensembles, mais aussi des conservatoires, des instituts de recherche, des facteurs d'instruments, des labels, enfin, toute structure qui est active dans ce secteur.
J'imagine ce qui vient enrichir l'échange, les réflexions que vous pouvez mener en tant que réseau.
Tout à fait, tout à fait. Et justement, en fait, ce changement, donc récemment, on a accueilli une trentaine de nouveaux membres. Et c'est vrai que ce changement permet de revoir les orientations du réseau, de se reposer pas mal de questions. Et puis, c'est passionnant parce que on a un peu tout l'écosystème autour de la table pour réfléchir ensemble à un certain nombre de questions d'actualité.
Et justement, quelles sont les orientations du REMA aujourd'hui?
Alors, il y a toute une partie du travail du réseau qui va rester dédiée à la musique ancienne, en question de recherche, de performance, de comment, qu'est-ce que la musique ancienne, sachant que selon les pays, forcément, le mouvement n'en est pas du tout au même niveau qu'en France ou en Belgique. Il y a des pays où c'est arrivé beaucoup plus récemment. Le fait de jouer sur instruments anciens, quelles recherches on fait derrière les morceaux qu'on joue, comment on les joue, avec quels instruments, et toutes ces questions-là. Donc ça, c'est quand même une grosse partie du réseau. Bien sûr, le but du réseau, c'est aussi l'échange entre les programmateurs, les directeurs d'ensemble, entre toutes ces personnes. Et puis, donc, une des questions qui vient un peu plus sur le devant de la scène ces derniers mois et qui va l'être pour les prochaines années, c'est la question de la transition. Et par transition, on entend la transition écologique, mais également une transition un peu plus globale qui englobe des aspects humains, sociaux, de modèles économiques, modèles artistiques aussi. Et voilà. Et donc l'écologie aussi.
Et de quelle manière justement les membres du REMA sont impliqués dans cette question? Comment cela se s'illustre-t-il?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Donc en tant que réseau, on est un peu au début de ce travail qu'on souhaite faire sur les prochaines années. Alors certes, on a eu ces dernières années des ateliers sur comment rendre son festival plus vert, des choses comme ça. Mais là, c'est une question qui est en train de prendre une plus grande ampleur et ça va un peu rythmer notre travail pour les prochaines années. Donc c'est un travail bien sûr qu'on fait avec les membres. Et ensuite, il y a la question qu'est-ce que nous en tant que réseau on peut faire pour accompagner cette transition. Et ensuite il y a la question qu'est-ce que font nos membres eux-mêmes. Et certains sont déjà assez avancés dans ce travail-là, d'autres moins. Donc notre but en tant que réseau, c'est d'accompagner le secteur dans son ensemble, en tant qu'écosystème vraiment dans le cadre de cette transition.
Quel est alors l'impact de la transition écologique sur l'activité de vos membres?
Ça a un impact assez important, surtout qu'on est donc dans un secteur où les artistes, les projets tournent beaucoup.
Il est beaucoup question de mobilité.
Voilà, il est beaucoup question de mobilité. Nous, on travaille au niveau européen. On travaille avec beaucoup de... En fait, on est dans un secteur où les ensembles tournent beaucoup. Il reste assez peu au niveau local. Donc, les festivals accueillent souvent des ensembles de plusieurs pays. Donc, des ensembles qui voyagent. Et là, la question de la mobilité internationale, bien sûr, est primordiale.
Et qu'allez-vous changer ?
Alors, ce qu'on aimerait bien changer, en fait, on aimerait bien accompagner une réflexion autour comment avoir un environnement de tournée qui soit plus durable, un environnement de projet, de performance qui soit plus durable. Et là, ça englobe à la fois la question de le moyen de voyager, donc prendre le train plutôt que l'avion. C'est comment on organise. Enfin, déjà, le fait d'organiser une tournée autour d'un projet et d'éviter d'avoir un projet qui ne fait qu'une date et c'est tout. D'avoir des tournées et des tournées qui font un peu sens géographiquement, qui permettent à un ensemble de se déplacer sans prendre l'avion tous les jours et donc en utilisant des moyens plus écologiques. Après, ceci étant dit, on n'a pas envie de faire cela au détriment de plus jeunes ensembles qui n'auraient pas les moyens de voyager
C'est ça
en
que
train,
j'avais envie de dire, comment ne pas pénaliser les ensembles.
Voilà, l'idée c'est de trouver un peu un équilibre entre les deux, mais nous ce qu'on peut faire en tant que réseau, c'est mettre tout le monde autour de la table pour discuter là-dessus notamment, et à la fois les programmateurs et les ensembles, justement pour essayer d'inciter à une plus grande réflexion et conscience de ces questions-là.
Mais voyager, par exemple, prendre le train à la place de l'avion, parfois ça peut coûter plus cher, même souvent. Oui. Est-ce qu'il y a des aides qui vont être proposées justement à ces ensembles pour qu'ils puissent eux-mêmes opérer ce changement ?
Alors, c'est quelque chose qui pourrait être souhaitable, bien sûr. Nous, on travaille au niveau européen, et là, ça dépend un peu des financements qui existent dans chaque pays pour ça. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait, bien sûr, qu'on aimerait accompagner. Ce que je peux dire aussi, c'est que le réseau est financé par Europe Créative, par la Commission européenne. Donc, c'est le programme dédié au secteur culturel de la Commission européenne. Et la transition écologique est une des grosses priorités,
du programme. Effectivement.
Voilà. Donc, c'est clair que nous, en tant que réseau, on va être incités à travailler là-dessus. Et de là, on va inciter nos membres aussi à travailler là-dessus. Alors après, est-ce qu'il y aura des financements directement pour cela ? C'est une question qui est un peu.
Mais on le souhaite, il y a un nouveau programme Europe Créative qui vient d'être lancé.
Voilà, la semaine dernière.
Exactement. Que des financements sont dévolus sur ce sujet. Tassica Amana, chantée par l'ensemble Cantoria. C'est le choix de notre invitée ce matin, Elena De Winter, secrétaire générale du REMA, Réseau Européen de Musique Ancienne. Vous nous en dites quelques mots de ce choix musical?
Alors, Cantoria, c'est un ensemble relativement jeune, un ensemble de quatre chanteurs espagnols qui est basé, dont le directeur artistique est basé dans le sud de l'Espagne et à un festival là-bas qui s'appelle Ecos. Alors, moi, j'aime beaucoup cet ensemble. Il participe à la redécouverte d'un patrimoine musical espagnol autour de la Renaissance. Donc, ils font des choses assez intéressantes. Ils ont participé au programme Emerging, donc qui est un programme de soutien de jeunes ensembles au travers de résidences, de concerts. Donc c'est un ensemble que j'apprécie beaucoup. Et donc, je disais que le directeur artistique de l'ensemble, Jorge Lozana, est le directeur d'un petit festival qui s'appelle Ecos en Sierra Espuña, dans le sud de l'Espagne. Et c'est un festival qui a une démarche assez intéressante. C'est un festival très rural. C'est pas facile d'arriver jusque là-bas en transport public. Et donc, le festival, quand il invite des artistes, essaye de les faire rester un certain temps pour plusieurs dates de concerts et de faire un travail de développement des publics, enfin auprès des publics, et d'éviter les dates uniques.
C'est effectivement une piste très intéressante qui revient quand on parle de réorganisation des tournées, des résidences. C'est continuer, parce qu'il y a déjà des endroits fantastiques qui le font déjà, mais voilà, de penser ça de manière plus systématique, l'imprégnation de la présence d'un artiste sur un territoire à un moment donné, sur une plus longue durée.
Voilà, ça c'est une des choses sur lesquelles on va travailler justement. Et c'est quelque chose. Alors c'est peut-être pas quelque chose que tous les festivals pourront du jour au lendemain faire complètement, parce que forcément on a des festivals dont le modèle repose sur le fait que sur un nombre de jours assez limité, on a beaucoup de concerts et donc le public vient aussi pour ça, pour découvrir beaucoup d'artistes. Mais de plus en plus de structures font un travail plus développé en accueillant des artistes dans le cadre de résidence, ce qui permet de faire venir l'international au niveau local, donc de développer tout un travail artistique au niveau local avec des écoles, avec des associations, avec des chœurs amateurs, des orchestres amateurs. Voilà, et d'être plus présent au niveau territorial.
Mais justement, alors, pour créer cet environnement de tournée plus durable que vous évoquiez, qu'est-ce que les autorités locales ou les politiques publiques peuvent mettre en œuvre pour vous accompagner justement dans cette transition?
Alors, il faut dire qu'il y a de plus en plus d'institutions qui soutiennent les résidences, qui soutiennent ce genre de travail. Donc, que ce soit les collectivités territoriales, au niveau de l'État, il y a des soutiens là-dessus qui se mettent en place de plus en plus. L'Institut français aussi, notamment dans le cadre de ses tournées à l'international, favorise de plus en plus les résidences. Et ensuite, on trouve aussi cette demande de la part des acteurs en eux-mêmes. On a de plus en plus de structures qui d'elles-mêmes décident de développer beaucoup ce travail de médiation, puisque c'est là-dessus que ça repose aussi. Et on a, nous au sein du réseau, on voit de plus en plus de structures qui sont un peu hybrides, donc qui ont des moments forts de festival où là, on a un certain nombre d'ensembles d'artistes qui sont là sur quelques jours, mais qui mettent en place sur toute l'année une saison de concerts, avec des résidences, avec donc ce travail de développement des publics au niveau local.
Et le fait que le REMA s'ouvre aux ensembles, à la jeune génération aussi, ça s'accompagne donc en quelque sorte un peu d'un changement de mentalité de manière générale?
Oui, alors c'est pas un changement à 180 degrés non plus, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir ces discussions ensemble, avec les ensembles et les programmateurs, les lieux de diffusion. Et plus de se retrouver à avoir ces discussions tout seul entre lieux de diffusion. Et je pense que forcément, la demande de la part des ensembles va être plus importante aussi pour ces questions-là, parce qu'au final, c'est quand même eux qui se retrouvent à passer beaucoup de temps dans les transports, à voyager pendant les tournées, à devoir enchaîner des dates d'un jour sur l'autre.
Dans des trajets pas toujours évidents.
Voilà, donc c'est clair j'espère que la demande va être encore plus forte de la part des ensembles.
C'est donc une affaire à suivre. Vous serez d'ailleurs, eh bien, début juillet, le 7 juillet, à Aix-en-Provence, dans le cadre des rencontres nationales Accord majeur, qui aura pour thématique la transition écologique. Ça tombe bien. Nous recevrons d'ailleurs Philippe Fongeas, directeur de l'Association française des orchestres, la semaine prochaine, qui coordonne l'événement cette année, pour en parler. Et puis, autre événement à venir, ce sera, eh bien, du 30 septembre au 2 octobre, le REMA, qui organisera sa prochaine conférence. Ce sera à Lyon et à Ambronay. On vous en reparlera, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Elena de Winter, pour partager ces réflexions. Et on se quitte avec votre deuxième choix musical, l'excellente ensemble correspondant Sébastien Dossé, avec cette cantate de Dietrich Buxtehude. L'ensemble correspondance et Sébastien Dossier ici pour cet extrait de la cantate Books WV41 de Dietrich Buxtehude, un extrait de ce disque paru récemment chez Harmonia Mundi. Il est 8h50. Mais bonjour, mon cher Christophe Chassol.
Mais bonjour, ma chère Saskia.
Vous allez bien ?
Je vais fort bien.
Magnifique. Qu'allons-nous... Oh !
Oui ?
Je suis très curieuse de ce que vous allez nous faire entendre aujourd'hui.
C'est vrai, je pense que ça peut vous plaire et j'ai vraiment envie que ça plaise aux auditeurs parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, compte beaucoup dans un rôle important dans l'histoire de la musique. Voilà. Et c'est une femme qui s'appelle Michelle Ndegeocello. On écoute. I hail from a suburb outside southeast. Annoyed the time, I don't like to run on the streets. And I ain't really into none of that pimping dog mentality. I like to smoke some weed, get close, and set my mind free. Can I help you? Michelle Ndegeocello, formidable musicienne, compositrice, bassiste, chanteuse, productrice, qui a grandi à Washington. Enfin, elle est née à Berlin en 68, elle a grandi à Washington et elle est connue pour avoir un peu créé le mouvement Neo Soul, la New Soul, quoi, de la New Soul. Vous vous souvenez, je vous ai fait écouter D'Angelo en 2000 avec Voodoo, avec ses beats en retard. De l'espace. Et vraiment, une sophistication de comment on pose les grilles d'accord, comment on pose les lignes de basse. On écoute un petit peu plus. Il y a vraiment beaucoup d'attitude. Hein. Alors écoute, les basses sont des basses sub, c'est-à-dire qu'elles sont encore plus basses que des basses. Écoutez. C'est comme des mini-ondes.
Oui.
Des sub-basses, des basses sub, en dessous de la basse. Donc vraiment, il y a ce truc de mettre de l'électronique dans la soul, donc la new soul, de la faire encore plus radicale, c'est-à-dire qui ralentit les limites. Bon, voilà. Et elle mélange tout, hein. Elle est très éclectique, funk, hip-hop, electronica, reggae, du rock, du jazz. Et elle vient quand même pas mal du jazz pour moi, en fait. Donc voilà, elle est très particulière, elle a un look vraiment, vous allez regarder, Michelle Ndegeocello, ça veut dire libre comme un oiseau, Ndegeocello, en swahili. Elle a fait une douzaine d'albums depuis 1993. Et donc là, je vous faisais écouter l'album qui s'appelle Cookie, The Anthropological Mixtape, qui date de 2002. Voilà, on va écouter un autre exemple, une petite valse qui s'appelle Jabril. Voilà, la même ambiance, mais vous allez voir, il y a encore plus de subtilité. Deux accords, juste. You look me in my eye. Why have you seen me? Forgive me, Lord. Cause I die in vain. Et vraiment, entre ces deux actes, le deuxième accord n'est pas du tout attendu. Comfort me. Forgive me. Forgive me, Lord. Celui-ci. Cause I die. You have no angels to comfort me. Et voilà la valse. Au fond du temps. Une seule note pour décrire l'accord. C'est tordu, hein, aussi.
C'est tordu. Mais j'aime bien, en même temps, c'est très dépouillé.
Ah ouais, c'est minimal. Et puis, il y a toujours un pas de côté, pareil, dans le choix des accords. C'est pas celui auquel on s'attend. Écoutez comment elle joue la basse. Le minimum. Voilà, Earth, ce morceau s'appelle... Non, ce morceau s'appelle Jabril. Est-ce qu'on va écouter... On a un petit peu de temps, je voudrais quand même vous faire écouter dans Earth la fin d'un morceau qui s'appelle Earth. On écoute avec les chœurs et un solo d'harmonica. Bathe in the warmth of the morning sun. I'll wait for you. Just bathe in the warmth of the morning sun. My. basse remplit les espaces. Harmonica.
Ah, c'est hyper construit. Hein.
Ah, c'est, elle est très importante pour moi, cette femme. Et des vrais solos de jazzmen. On va passer. Je vais vous faire écouter un morceau d'un album qui s'appelle The Spirit Music Jamia, The Dance of the Infidel, qui date de 2005. C'est son sixième album. Et vraiment, c'est avec une pléthore de jazzmen très connus, de Jack DeJohnette, Mino Cinellou, Chris Dave, le batteur, Kenny Garrett, Matthew Garrison, Cassandra Wilson, la chanteuse. Et là, elle a vraiment laissé les autres interpréter ses compos, vraiment. Parfois, c'est pas elle à la basse. Bon, là, il y a une ligne de basse, vraiment. Donc, elle, on sent que le morceau part de la ligne de basse. Il s'appelle Luke Mann. Et alors, la ligne de basse, elle fait. Voilà, toujours ces deux accords. Le deuxième accord est toujours pas celui qu'on attend. On change un peu de tonalité, voilà ça. On écoute Luke Mann. Clarinette basse.
Tout comme elle veut.
Elle fait ce qu'elle veut, c'est hyper libre, c'est vrai, mais très écrit en même temps. Voilà, je vous conseille ces deux albums d'elle. Cookie, The Anthropological Mixtape de 2002 et The Spirit Music Jamia de 2005. Moi, elle est fantastique, elle joue encore en live beaucoup et elle vaut vraiment la peine de se déplacer.
Eh bien, déplacez-vous, chers auditeurs, on ne peut que vous encourager à retourner au concert, évidemment. Ouais. Et puis, allez voir le concert de Christophe Chassol aussi, jeudi prochain au Trianon, ce sera le 15 juin.
Le 17,
jeudi 17, évidemment. Merci Christophe de me corriger. Et puis, vous nous enverrez un petit message sur le site francemusique.fr, sur la page de la matinale, pour me dire si Christophe a été bon ou pas.
Faut que je travaille.
Merci Christophe.
Merci Saskia.
Et on retrouve la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine, avec plaisir.
Et c'est l'heure de retrouver Gabriel Olivera Guyon. Bonjour Gabriel.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien ?
Oui, très bien. Alors nous aujourd'hui, on va avoir des messages vocaux qui nous ont été envoyés depuis l'Australie et la Norvège, figurez-vous.
Mais c'est pas mal, on vous écoute des quatre coins du monde.
C'est chouette.
Bah oui, c'est plutôt chouette, vive France Musique, moi j'ai envie de dire. Et puis vive France Musique est à vous.
Bon week-end Saskia.
Mais bon week-end à vous. Allez, un petit mot rapide sur notre concours. Je vous faisais remporter ce matin le disque Rebirth de la soprano Sonia Yoncheva. Il fallait deviner le lieu où se déroulera la musique en fête le 18 juin prochain. Il s'agissait évidemment du Théâtre Antique d'Orange. Merci à Marie-Ferdinand, Félix Levaché, Emmanuel Morse-Duncan et surtout Diego Hac-Lopez. Et merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une très belle semaine. À samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.